Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de l'ACAD 28, présentée par Marie-Christine et Eric. Bonjour Eric, content de partager ce moment avec toi.
Bonjour Marie-Christine et moi aussi. Je crois qu'aujourd'hui tu vas nous parler du centre Primo Levi, dont l'ACAD est un membre fondateur.
Tout à fait Eric. Le nom exact est Centre Primo Levi, Vivre après la torture. Son but est de soigner les victimes de torture qui arrivent sur notre territoire.
Alors, c'est vraiment très nécessaire hein, quand on sait comment ils arrivent souvent. Et alors, d'où vient le nom de Primo Levi à ce centre de soins?
Alors, Primo Levi, c'est un homme assez connu, mais il est bon, je crois, de rappeler son parcours de vie. Et ça expliquera pourquoi on a donné ce nom au centre, en fait.
Alors, il est connu comme l'auteur du livre « Si c'est un homme ».
Oui, c'est ce qu'il a fait connaître. Mais ce qui est intéressant, c'est de rappeler ce que raconte ce livre. Il relate son emprisonnement au cours de l'année 1944 dans le camp de concentration et extermination d'Auschwitz. Il avait 24 ans.
Et pourquoi est-ce qu'il est allé dans ce camp? Est-ce qu'il était parce qu'il était juif?
Oui, il était juif italien de naissance. Il est né à Turin en 1919. Il a fait de brillantes études de chimiste par vocation. Et il a eu un peu de mal à travailler car il y avait des lois anti-juives en Italie à cette époque. Et puis un jour, il a été emprisonné et déporté à Auschwitz.
D'accord. Et son livre, donc, il a été écrit tardivement. Qu'est-ce qu'il voulait expliquer par ça?
En fait, il l'a publié en 1947 et au moment de son mariage. Sa carrière d'écrivain, elle est orientée en fait par l'analyse scientifique de son expérience de survivant de la Shoah. Peu de gens ont eu la chance de revenir et c'est difficile pour ceux qui sont revenus d'accepter cette situation. Il en revient complètement traumatisé. Alors son but à lui, c'était plutôt que de raconter les faits, c'était de montrer, de retranscrire, de transmettre, d'expliciter les choses. C'était vraiment la démarche d'un scientifique, ce qu'il est en fait par sa formation.
Et comment a-t-il eu la chance de revenir? Est-ce qu'il était plus robuste que les autres prisonniers? Comment il a fait?
En fait, pas du tout. Il était même assez souffreteux depuis son enfance. Il a parfois arrêté ses études. Mais pendant son internement, il a subi des décisions qui lui ont peut-être sauvé la vie. Je vais t'en donner deux. À son arrivée à Auschwitz, il est assigné au camp auxiliaire Monowitz, où du fait de ses diplômes, on lui donne au bout de quelques temps des fonctions beaucoup moins fatigantes que de creuser des tranchées, ce qui lui a permis de rester en vie.
Ben oui.
Et puis à la fin, quand les Russes se sont approchés du camp, il a été organisé une évacuation du camp. Et les prisonniers ont fait ce qu'on a appelé la marche de la mort, car ils ont été décimés du fait de leur état physique. Mais lui, il a la scarlatine à ce moment-là, et il est abandonné avec d'autres malades à l'infirmerie. Donc en fait, il sera libéré par les troupes russes. Et par contre, il restera plusieurs mois dans un camp de transit en Biélorussie avant de pouvoir rejoindre Turin et l'Italie.
Donc, il a eu de la chance, hein, vraiment.
Il a eu deux chances, là.
Dans son terrible malheur. Et après ça, après ses épreuves, il a pu reprendre une vie normale?
On peut dire oui et non. Il a travaillé comme chimiste, il s'est marié, il a eu deux enfants, il a continué de publier des courtes histoires, des poèmes, des romans. Il a fait beaucoup de conférences, témoignages, jusqu'aux États-Unis. Mais à partir de 1963, il a commencé d'être terriblement dépressif. En fait, il s'est jamais remis de son passage à Auschwitz et du fait d'être revenu vivant. Et le 11 avril 1987, il est tombé dans les escaliers, il est décédé. Il y a certains qui pensent que sa chute était un suicide. Les avis divergent sur ce point, mais on ne sait pas trop. En tous les cas, il était terriblement dépressif. Une chose est sûre, Primo Levi est resté marqué à vie par son expérience de déporté. Maintenant, on va écouter un petit peu de musique et nous reprendrons sur le centre Primo Levi après.
Thank you.
Donc nous reprenons l'émission de la CAT sur le centre Primo Levi. Maintenant que nous connaissons mieux Primo Levi, revenons au centre qui porte son nom.
Alors, pourquoi la CAT, c'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture? Donc, Primo Levi, c'est les soins à ceux qui ont été torturés. Et pourquoi la CAT s'intéresse-t-elle à Primo Levi particulièrement?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la CAT, elle est membre fondateur du centre et elle siège toujours au conseil d'administration avec une autre association qu'on connaît bien, Médecins du Monde. À la CAT, en fait, nous militons pour l'abolition de la torture dans le monde. Mais comme la torture n'est pas abolie, malheureusement, nous aidons aussi ceux qui en sont victimes. Et le centre, il est justement destiné à soigner ces personnes qui arrivent sur notre sol.
Alors ce centre, le centre Primo Levi, qu'est-ce qu'il fait exactement?
Alors ce centre, je dirais que sa première destination, c'est de soigner d'abord. Alors en 2020, il a reçu 412 personnes et 62 nouveaux patients. Parmi eux, 37% de mineurs, un pourcentage en forte hausse. Des enfants avec leur famille ou des mineurs non accompagnés. Il a fallu s'adapter aux conditions sanitaires dues à la Covid, ce qui n'a pas simplifié la prise en charge d'une population fragile. Pour ces patients, isolés, pourchassés, le confinement a eu un effet de déjà-vu et a occasionné une attitude de repli, parce qu'ils avaient déjà vécu ce repli dans leur propre pays. Ils ont eu l'impression d'une répétition de leurs conditions de vie qu'ils avaient essayé de quitter. Et ça a été très, très, très difficile pour eux.
On s'en doute pour ces personnes. Et alors, justement, cette prise en charge par le centre Primo Levi pour les rescapés de la torture, en fait, en quoi elle consiste, cette prise en charge?
Alors, c'est une prise en charge médicale, on peut dire globale, mais surtout psychologique. 50% sont des consultations psychologiques. Après, on peut greffer dessus d'autres consultations s'il y a besoin et des aides sociales s'il y a besoin aussi. Alors, la plupart des patients sont envoyés par des partenaires institutionnels, associatifs. Quelques-uns viennent d'eux-mêmes. La majorité des patients sont des hommes adultes, isolés. Ils n'ont aucune famille en France. Et comme il n'y a pas beaucoup de places d'hébergement, ils ne sont prioritaires nulle part. Près de 3/4 des patients mettent plus d'un an pour demander une consultation vers le centre Primo Levi.
Alors en quoi ce centre Primo Levi se démarque des autres propositions de soins qui existent certainement et qui sont variées? En quoi est-il différent?
Alors quand des personnes arrivent dans notre pays, de pays en guerre, après un périple souvent épouvantable, comme on peut l'entendre souvent à la télévision ou à la radio, on commence par les vêtir, les nourrir, essayer de leur trouver un toit, leur trouver un travail, des autorisations de séjour. Mais même si tout cela aboutit, et c'est loin d'être le cas pour la plupart, il reste le traumatisme de ce qui a été vécu. Et c'est là que les consultations psychologiques au centre trouvent toute leur justification. Les personnes, en fait, ce qu'elles demandent, c'est le besoin de se retrouver avec eux-mêmes et dans la dignité. Alors, les violences subies, elles sont en fait de plusieurs formes. Pour 48% des patients, c'est la torture. Ça peut être aussi la garde à vue, la prison, des violences directes, des victimes indirectes, spécialement les enfants, et de la pression psychologique.
Donc, d'après ce que tu nous dis, les consultations, c'est principalement d'ordre psychologique ou psychiatrique?
Oui. Par exemple, en 2020, 2884 consultations psychologiques ont été délivrées. Mais pas exclusivement. Je te prends un exemple. Parfois, en plus de la consultation psychologique, on demande une kinésithérapie parce qu'elle est demandée pour reconstruire le corps meurtri par les violences subies. Et les symptômes à gérer sont très variés. Les principaux, c'est les plaintes liées au sommeil. Les gens ont des insomnies, des cauchemars, des réveils brutaux. Ils ont aussi beaucoup de douleurs physiques, beaucoup de maux de tête. Et enfin, ils ont des problèmes de mémoire et de concentration. Sans doute parce qu'ils veulent oublier un peu leur vie passée.
Alors, tous ces soins pour ces personnes qui ont été terriblement atteintes, je pense qu'elles doivent se faire avec un grand respect des personnes.
Oui, alors c'est assez délicat quand même. Les patients reçus sont des personnes fragiles qui demandent une façon de les aborder avec beaucoup de précautions, eu égard à ce qu'elles ont vécu et aussi à leurs propres traditions. Dans le centre, 48 nationalités sont représentées. Les plus importantes, si on peut les citer, la RDC, la Guinée-Conakry, la Tchétchénie, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan et le Sri Lanka.
RDC, République démocratique du Congo.
C'est ça, exactement.
Donc c'est pas mal de pays africains, mais il y a aussi la Tchétchénie, un peu de sinistre mémoire.
Oui.
Et puis on a des pays d'Asie comme l'Afghanistan.
L'Afghanistan, on s'en doute un peu, et le Sri Lanka aussi, qui est pas mal représenté. Donc bien sûr, tu imagines, il faut un nombre élevé d'interprètes pour aider aux consultations. Pour les mineurs, puisqu'il y en a quand même 37%, on requiert la présence d'un tiers, au moins au début des séances. Et ce qu'on remarque chez les plus jeunes, alors ça c'est un peu inquiétant parce que ça empêche de travailler, ils ont une grande perte de confiance dans la parole des institutions qui les accueillent. Donc ils n'ont pas confiance dans le centre non plus.
D'accord.
Pour plusieurs raisons. Mettre des mots sur des actes aussi innommables qu'ils ont vécu, c'est une épreuve pour eux. Et après, ils ont la crainte de ne pas être crus et ils ont peur de ne pas obtenir l'asile parce que c'est un système en France où il est de plus en plus demandé de prouver les sévices vécus. Alors, c'est très compliqué.
Voilà. On imagine bien l'angoisse de ces jeunes qui, à la fragilité d'être adolescent, ça rajoute ces véritables épreuves qui se sont abattues sur eux. Et donc, en tous les cas, qu'un tel centre, que le centre Primo Levi existe, c'est vraiment une bonne chose. Mais comment ils font pour vivre? Quels sont leurs moyens financiers?
Alors, c'est compliqué. Et puis, avec les années Covid, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des dons qui ne sont pas arrivés. Par exemple, les équipes des ACAT donnaient toujours quelque chose, mais comme pendant un an, elles ne se sont pas réunies, elles n'ont pas donné. Enfin bon, il n'y a pas que nous, mais enfin, c'est assez compliqué. Voilà, donc c'est pourquoi qu'en conclusion, je voudrais vous inviter à aider le centre si vous le pouvez. Alors, je donne ses coordonnées. Téléphone 01 43 14 88 50, je répète, 01 43 14 88 50. Il y a aussi le site www.primolevi.org. Alors sur ce site, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez télécharger librement la revue du centre qui s'appelle Mémoire. Et la dernière, je m'en suis inspirée pour préparer cette émission. Et puis, restez vigilants, engagés pour lutter contre la torture et pour aider ceux qui ont été victimes de toutes ces violences. À bientôt.
Merci beaucoup Marie-Christine. Et on peut juste rappeler que la réunion prochaine de l'ACAT aura lieu toujours au presbytère de Rechève le lundi 15 novembre de 18h30 à 20h.
Entendu.
Merci.
Merci.